Il y a 70 ans commençait la Deuxième Guerre mondiale. Cette affirmation a tout lieu de surprendre quand on sait que, classiquement, on parle de la guerre de 39-45. Mais de plus en plus nombreux sont ceux qui placent le début de ce conflit meurtrier dès la signature des accords de Munich les 29 et 30 septembre 1938. Anna Kubischta, pour ce rappel historique.
J'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. Ma tâche est rude. Depuis le début des difficultés que nous traversons, je n'ai pas cessé un seul jour de travailler de toutes mes forces à la sauvegarde de la paix et des intérêts vitaux de la France.
Le 28 septembre 1938, le président du Conseil français, Édouard Daladier, annonce aux Français son départ pour Munich. La mobilisation a été faite depuis quelques jours en France, de même en Angleterre. La guerre est aux portes de l'Europe, mais personne en France et en Angleterre n'a envie de la faire. Et c'est la Tchécoslovaquie, amputée des Sudètes par cet accord, qui sera sacrifiée sur l'autel d'une paix en sursis. À Munich, ce 29 septembre, c'est au tour d'un Hitler qui brandit l'ultimatum de la guerre que se réunissent Français et Anglais pour des négociations qui n'en sont pas vraiment, comme le souligne Georges-Marc Benamou, l'auteur du roman Le Fantôme de Munich, qui retrace de façon romancée cette réunion historique.
Comment on négocie avec Hitler? En tout cas, comment on ne négocie pas avec Hitler en l'occurrence? Comment on se fait rouler? Et comment, dans ces négociations internationales, le diable se niche dans le détail d'une fortification qu'on va lâcher à 5 heures de l'après-midi parce qu'il est trop tard, dans le détail d'un mot qu'on emploie pour un autre parce que la traduction était trop hâtive et que on a perdu, c'est vraiment passé, la version anglaise d'un mémorandum. Comment on se fait rouler dans la farine par finalement quelque chose qui était assez bien orchestré, qui était un piège. Le piège, c'est d'avoir voulu Mussolini comme médiateur. Évidemment, ça n'était pas un médiateur. Le piège, c'est de savoir que le propre ministre des Affaires étrangères, Bonnet, français, avait lui-même intrigué pour que, en cachette de Daladier, si je puis dire, ce sont des enfantillages terribles, pour que Mussolini soit justement le médiateur. On voit bien l'exemple d'une très très mauvaise négociation internationale.
Et après Georges-Marc Benamou, on écoute l'analyse de Marc Ferraud, un des plus grands historiens français. Pour lui, Munich reste une épine dans le pied pour la France.
L'histoire de Munich est en quelque sorte une sorte de plaie ouverte dans la conscience nationale française. Parce que nous avons parfaitement conscience que c'est la lâcheté des dirigeants français, et même du peuple français dans son ensemble, qui ont abandonné la Tchécoslovaquie. Cela dit, d'après des lectures que j'ai faites, il semblerait bien que Benesch était contraint à céder et qu'il a laissé les Français et les Anglais faire pression sur lui pour qu'il capitule, afin de pouvoir dire à ses compatriotes que ce n'était pas de sa faute. Il y a eu un jeu très pathétique entre les dirigeants tchèques et français pour savoir qui lâcherait l'autre le plus vite et pour se justifier vis-à-vis de son opinion. Par conséquent, c'est un moment honteux de l'histoire de la France. Et depuis 1938, bien des dirigeants français ont voulu se racheter. Et il n'y a pas de doute que la mauvaise conscience de Munich est quelque chose qui a hanté les esprits français. Par exemple, l'expédition de Suez en 56 par Guy Mollet, n'est-ce pas, s'est faite sous le drapeau de Munich. Nous avons vengé Munich, puisqu'on a identifié Nasser à Hitler, à juste titre ou pas à juste titre, Israël à la petite Tchécoslovaquie, n'est-ce pas? Et si vous lisez les journaux de l'époque, eh bien, Guy Mollet dit, ben, nous avons ressuscité les Tchèques, vous voyez, en ayant sauvé Israël de la destruction par les Arabes de l'époque. Mais ce qu'on ne sait pas suffisamment, peut-être, à Prague, et ce que les Français ne savent pas non plus, c'est que Hitler était furieux des accords de Munich. Nous avons tous cru qu'il en était ravi puisqu'il avait obtenu un certain nombre de concessions, mais en fait il était furieux parce qu'il avait dû négocier et que pour montrer la supériorité du peuple allemand, ce qu'il lui fallait c'était une victoire obtenue au coup de force. Et sa grande joie à lui, ça n'a pas été Munich, ça a été l'occupation de Prague en mars 1939, parce que là, les Français se sont couchés, les Anglais aussi, les Russes n'ont pas bougé, et en quelque sorte, il a fait un coup de force. Ça lui était beaucoup plus agréable, parce que ça permettait d'incarner la puissance allemande et la supériorité de la race. N'oubliez pas que Hitler est avant tout un raciste.
Petr Pithart est le vice-président du Sénat tchèque. L'American Freedom Alliance, un think tank basé à Los Angeles, vient de lui décerner le prix Masaryk à l'occasion de cet anniversaire. Pour Petr Pithart, 70 ans plus tard, Munich continue d'être un poids pour la République tchèque.
Pour moi, nous subissons toujours les conséquences de Munich et c'est toujours une question vivante, quelles que soient les réponses qu'on y trouve. Je suis persuadé que tant que cela nous fera souffrir, c'est-à-dire qu'on est capable de se poser la question de notre existence, de savoir ce qu'on est prêt à sacrifier pour la liberté, eh bien, si ces questions continuent de nous agiter aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle.
70 ans plus tard donc, la question de Munich est toujours ouverte pour les Tchèques, ne serait-ce qu'en raison de la question de l'expulsion après-guerre de milliers d'Allemands des Sudètes de Tchécoslovaquie, sans distinction. Pour l'historien Marc Ferraud, le règlement de cette question ne pourra s'effectuer que par le biais de compensations, seule façon de peut-être un jour tourner la page du ressentiment.